Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nos invités aujourd'hui sont deux historiens, Jean Tullard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et Yves Brulé, professeur agrégé qui fut l'élève et l'assistant de Jean Tullard. Tous deux viennent nous présenter leur dernier livre, « Détective de l'histoire », paru aux éditions Écrire. Je précise « détective » au singulier, le détective de l'histoire étant tout simplement Jean Tullard. Il s'agit en fait d'un ouvrage assez personnel dans lequel Jean Tullard, au fil de ses entretiens avec Yves Brulé, évoque son parcours et les passions qui l'animent. Retrouvons donc sans plus attendre Jean Tullard et Yves Brulé. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Monsieur Tullard, je ne vais pas vous présenter. Tout le monde vous connaît. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je leur demande de patienter quelques instants. Ils apprendront tout. Monsieur Brulé, vous êtes donc professeur agrégé, maître de conférences à Sciences Po Paris. Et vous préparez donc un essai sur la diplomatie de Napoléon III qui s'intitulera « Le Quai d'Orsay impérial ». Vous êtes par ailleurs chargé de mission à l'Académie des sciences morales et politiques. Mais donc revenons au détective de l'histoire. Comment est né cet ouvrage et qui veut répondre?
Alors je répondrai puisque je suis le principal coupable. C'est une collection. C'est une collection qui a été imaginée chez Archipel, Écriture, pour présenter un certain nombre de personnalités essentiellement, curieusement, tournant autour du cinéma. En effet, le premier, c'était Jean Vautrin, qui fut pris Goncourt comme écrivain, mais qui aussi, comme cinéaste, Jean Herman a signé d'excellents polars. Puis ensuite, il y a eu Jean-Claude Carrière, qui est un immense écrivain, qui devrait d'ailleurs être dans cette maison où nous sommes, tellement je l'admire, et qui a été aussi un cinéaste magnifique, surtout un scénariste, le scénariste de Buñuel, dont plusieurs chefs-d'œuvre, dont La Voie lactée. Et puis, ensuite, il y a eu Bertrand Tavernier, cinéaste réputé pour en parler ici, puisqu'il est spécialiste de films historiques autant que de polars. Et donc, je prends la suite peut-être parce que je suis l'auteur d'un guide des films et d'un dictionnaire du cinéma. Mais bien entendu, je n'avais aucune légitimité à parler de cinéma dans cette collection par rapport à Jean-Claude Carrière et par rapport à Vautrin ou par rapport au directeur de la collection, Sim Solo. Moi, j'ai proposé « Détective de l'histoire ». Le terme de « détective » permet de jeter un coup d'œil vers Sherlock Holmes, vers Arsène Lupin, héros cinématographique et en même temps, l'historien est un détective.
Donc l'ouvrage s'articule en trois parties. La première partie s'intitule « Comment devient-on historien ?». Dans ces pages, vous revenez sur votre enfance, vos études, votre carrière universitaire et votre activité d'académicien. Alors commençons par votre enfance. Pouvez-vous nous indiquer quel est le lien entre votre vocation d'historien et votre enfance, s'il y en a un ?
Il n'y en a pas. C'est simplement la présentation. Quand on fait une biographie, il faut bien remonter à l'enfance du personnage. Faisant en quelque sorte ma propre biographie, sans y attacher une grande importance, car ce qui compte, c'est le métier d'historien. Mais il faut bien, lorsqu'on parle d'histoire, présenter l'historien. Sinon, il n'y a pas un regard entièrement innocent de l'historien sur l'histoire. Donc, mon enfance, c'est une enfance bercée par les événements politiques. Car j'ai eu malchance de naître en pleine crise économique en 1933. C'est les suites de 1929. Là-dessus arrive 1940. Donc, je suis forcé de fuir Paris et d'aller chez mes grands-parents à Albi. J'aurais pu rester à Paris, mais enfin, je me retrouve à Albi. Ensuite, en 1944, j'assiste de façon très réaliste à ce qu'on appelait l'épuration. Et puis, j'arrive à Paris. À Paris, ça va être tous les renversement de régime, la 4e République, puis ensuite 1958, et puis la guerre d'Algérie. Bref, je suis un pur produit d'événements sur lesquels je me suis toujours interdit d'écrire, puisque je les avais vécus et donc je n'aurais pas porté un regard froid. Tandis que Napoléon, c'est loin, on peut être parfaitement objectif sur Napoléon, il est difficile de l'être quand vous avez assisté à certains événements particulièrement douloureux. Donc, mon enfant, c'est simplement pour expliquer que peut-être, ayant connu, par exemple, je prends qu'un exemple, entre autres, l'épuration de 1944, de l'administration de 1944, avec d'ailleurs, mais ça j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, une épuration en 1940, j'ai porté un regard privilégié sur l'administration française, et l'administration française dans une époque qui, 1814-1815, est remarquable par ses épurations et qui se continue encore en 1830. Donc, ayant la propre expérience de ce que j'avais vu de fonctionnaires à la dérive parce qu'ils avaient été épurés, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, de gens qui sortaient de prison et autres, c'était intéressant de voir comment ça s'était passé en 1814, en 1815 et en 1830. L'historien dans le choix de ces sujets, et vous êtes historienne et je suis certain que c'est valable pour vous, l'historien dans le choix de ces sujets n'est jamais innocent. Voilà pourquoi il y a cette partie à laquelle je n'attache pas une grande importance, mais qui est la justification de ce qui va suivre.
Donc vous vous retrouvez quand même à faire des études d'histoire, alors que vous dites que c'est finalement presque par hasard, vous vous destinez à la magistrature.
C'était plus logique dans le milieu où j'étais, mais ma mère avait été prof, en avait gardé un mauvais souvenir, était professeure d'anglais en Angleterre, et comme elle était méridionale et qu'elle avait un accent du Midi à couper, Shakespeare devenait Shakespeare. Et donc, elle n'avait pas continué à insister et elle avait passé le concours d'administrateur de la préfecture de police. Je ne sais pas pourquoi elle avait passé ça, parce qu'il n'y avait aucune femme, il n'y avait rien. Je rappelle, administratif, pas policier actif. Et donc, elle s'est retrouvée dans des bureaux et comme elle avait des diplômes universitaires, on lui a dit, tenez, prenez le musée de la préfecture de police. Le musée et les archives qui, à l'époque, étaient au 36 Quai des Orfèvres, lieu mythique. Et je peux vous dire que, par exemple, j'évoque Quai des Orfèvres de Georges-Henri Clouzot, le fameux film, eh bien, c'est exactement ça. Il y avait cet escalier du 36 Quai des Orfèvres qui montait dans les étages supérieurs et il y avait, au pied de l'escalier, la cage aux filles où étaient les prostituées qui avaient été raflées et qui vous disaient, à moi, pas l'adolescent passant, donne-moi une clope, je n'avais pas, je te montrerai mon C. Alors, je n'ai jamais vu leur C puisque je n'avais pas de clope. Mais voilà, c'était ça et c'est vraiment cette atmosphère. Et le musée, dont on dit qu'il va revenir, parce qu'actuellement il est installé à Maubert, mais il est froid. Tandis que là, au 36 Quai des Orfèvres, il était d'une très grande richesse. Il y avait énormément de souvenirs de l'occupation que ma mère avait recueillis. Il y avait une malle de Doriot, il y avait le viseur par lequel Petiot regardait l'agonie de ses victimes, pour être bien sûr qu'ils étaient mortes et rafler leurs bijoux ensuite. Bref, et il y avait, on croisait par exemple le docteur Paul. Le docteur Paul était le médecin légiste qui assistait, faisait toutes les autopsies de victimes, et qui assistait également les condamnés à mort. C'est lui qui a ce mot merveilleux, quand on va fusiller Laval, vous savez, le matin, Laval avale une ampoule de cyanure, et donc il ne pourrait pas le fusiller, il est en train d'agoniser. On appelle Dr Paul, qui lui fait des lavages de cerveau intenses, et à la fin, il dit « Monsieur le président Laval est sauvé ». Il est sauvé pour être fusillé quelques minutes plus tard. Donc, c'était un milieu pittoresque qui vous explique, là encore, pourquoi on en arrive à être l'historien de Fouché, à être l'historien de Talleyrand.
Voilà, oui, parce que vous arrivez finalement à l'histoire napoléonienne par le biais de l'histoire de
l'histoire du 36 Quai des Orfèvres, c'est-à-dire, alors j'ai toujours eu une prédilection pour ces policiers de l'époque napoléonienne.
Mais nous apprenons dans notre livre que M. Tullard a failli donc être juriste, en fait. Et je rapproche de ce fait un commentaire que m'a fait un grand juriste, membre de votre académie, qui m'a dit, après avoir lu ce livre détective de l'histoire, au fond, les historiens et les juristes raisonnent de la même manière. L'un et l'autre, nous raisonnons sur des faits qui n'ont eu lieu qu'une fois. Et il me semble que c'est profondément vrai. Hein. Le juriste, finalement, étudie des cas, des jugements qui n'ont eu lieu, des faits qui n'ont eu lieu qu'une fois, exactement comme l'historien.
À condition que l'histoire ne repasse pas les plats. Vous savez, on m'a souvent posé la question et j'ai dit on ne les repassait pas chez les Borgia. Évidemment, un plat suffisait. Mais pour empoisonner les gens. Mais effectivement, le problème est de savoir, Marx a dit, l'histoire se répète le 18 Brumaire, se répète avec le coup d'État du 2 décembre, le premier en tragédie, le deuxième en comédie. Bref, on peut considérer. Et alors là, c'est un des éléments du livre sur lequel m'a parfaitement interrogé Yves Brûlé. On peut considérer que on tire des leçons de l'histoire, que, en fait, l'histoire, si elle ne se répète pas, présente des situations souvent analogues. J'insiste par exemple dans ce livre sur le parallèle entre la guerre d'Espagne de Napoléon, qui fut menée dans les conditions que vous savez et avec l'issue que vous savez, et l'Afghanistan. Vous retrouvez exactement le même parallèle. D'un côté, un chef d'État qu'on impose, c'était Joseph en Espagne, dans un pays où l'armée qui envahit n'a pas la même religion que le pays qui l'envahit, c'est-à-dire que nous apportions les Lumières au temps de Napoléon, dans un pays profondément catholique, et là nous apportons effectivement la démocratie en Afghanistan, dans un pays profondément musulman et qui se moque éperdument de la démocratie, comme les Espagnols se moquaient des Lumières. Et vous avez un engrenage, une guerre qui se déroule dans un contexte où la supériorité militaire ne peut pas s'affirmer et où la rébellion est alimentée de l'extérieur, les Anglais en Espagne et là le Pakistan. Bref, vous voyez très bien que si on m'avait lu, si les dirigeants avaient lu mon Napoléon, s'ils m'avaient consulté, j'aurais dit n'y allez pas.
Ce qu'ils n'ont pas fait, parce que... Donc, vous vous destinez à l'histoire et vous, donc comme on l'a vu, finalement, vous n'étiez pas, dès le départ, passionné par Napoléon et vous ne destiniez pas à devenir son biographe. C'est finalement presque là encore le hasard qui vous y amène. Et alors, penchons-nous un peu plus sur le métier d'historien et sur les limites du biographe et les craintes du biographe. On vous sent toujours très, très distancié par rapport à Napoléon. Pourquoi ?
Oui, alors je suis plus distancié par Napoléon que Brûlé l'est par rapport à moi.
Tout à fait, puisque...
C'est assez amusant dans ce
votre lascase,
cet entretien,
en quelque sorte.
On sent que Brûlé est très intéressé par moi, alors que je parle de sujets sur lesquels j'ai une très grande distance. Cela tient à ce que, bien qu'auteur d'un dictionnaire amoureux de Napoléon, je pose sur Napoléon le regard froid, je l'ai dit, du libertin qui choisit sa proie et surtout ne doit pas en tomber amoureux. Alors effectivement, quand j'écris un dictionnaire amoureux de Napoléon, j'explique bien que ce n'est pas Napoléon lui-même, c'est le mythe. Si j'aime Napoléon, c'est parce que c'est le personnage le plus représenté au cinéma, donc je le rencontre 36 fois. C'est le personnage historique le plus menacé d'être assassiné dans les romans policiers. Bref, je le retrouve, et la gastronomie, c'est lui qui l'invente. Donc, parmi les passions que j'énumère dans cet ouvrage « Détective de l'histoire », on trouve toujours Napoléon. Donc, je suis intéressé par Napoléon, inévitablement. Je n'en suis pas amoureux au sens propre, c'est-à-dire que je ne suis pas fasciné par lui. Et en réalité, je n'aurais pas dû écrire un dictionnaire amoureux de Napoléon, mais comme je le laisse entendre dans « Détective de l'histoire », un dictionnaire amoureux de Fouché. Il faut me dire qu'il est difficile d'être amoureux de Fouché quand on voit sa tête. Enfin, il y a une personne qui en a été amoureuse, c'est son épouse. Mais elle était encore plus laide que lui, et les enfants qui sont nés de ce croisement étaient appelés par le Barras, étaient appelés des sangliers, tellement ils étaient laids. Et donc, alors, je peux aussi, et j'ai consacré un livre à Fouché, je peux aussi, et d'ailleurs, Brûlé le marque bien dans l'introduction, je peux aussi être amoureux de Talleyrand, fasciné par Talleyrand. Mais c'est à lui à répondre, au fond, à cette question.
Ah, il y a une chose que je ne ferai certainement jamais, c'est d'écrire un dictionnaire amoureux de Jean Tullard. Encore qu'il y aurait de quoi écrire un dictionnaire sur Jean Tullard, après tout, parce que vous avez traité énormément de sujets, vous êtes intéressé à beaucoup de sujets. En revanche, il y a un point commun, si j'ose me permettre, entre vous et moi, c'est que je suis arrivé à Napoléon III à peu près de la même manière et avec le même regard que vous êtes arrivé, vous, à Napoléon Ier. C'est-à-dire que vous avez étudié la préfecture de police et ça vous a amené au Premier Empire. Moi, j'ai étudié le ministère des Affaires étrangères et ça m'a amené au Second Empire parce que c'est l'époque où il se passe le plus de choses. Et je n'ai pas plus de passion pour Napoléon III, que je n'aime pas spécialement, que vous n'en avez pour Napoléon, que vous n'aimez pas d'ailleurs tellement plus que cela.
Vous voyez que c'est mon meilleur élève.
On dit toujours que le biographe finit par ressembler à son personnage. Que diriez-vous, Monsieur Brûlé, dans le cas de Monsieur Tullard ?
Alors je crois que c'est la preuve contraire qui est donnée. Quant à moi, il faudrait que je fasse pousser une moustache considérable pour ressembler à Napoléon III. On en est encore assez loin. Non, je ne crois pas. Justement, l'intérêt de la manière dont Jean Tullard aborde ses personnages, c'est qu'il reste froid. Et vous disiez que vous n'êtes pas arrivé par passion vers le Premier Empire. Et la passion n'existe ni au départ, ni à l'arrivée, finalement. Et donc, vous restez froid. Et à mon avis, c'est la seule façon d'aborder un personnage historique. Alors, c'est très difficile. C'est un peu inaccessible comme idéal. Mais moi, si je considère M. Tullard comme une référence, c'est parce que, pour moi, c'est parce qu'il n'est pas un militant. C'est un historien, mais ce n'est pas un historien engagé dans la défense d'une cause. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Et un historien ne peut pas être au service d'une cause, ou alors il faut qu'il étudie, s'il veut être lui-même engagé, dans ses travaux historiques, une autre période, un autre sujet que celui dans lequel il est engagé comme citoyen.
Et pourtant, enfin, même un professeur très engagé, enfin engagé non, mais vraiment, les amphithéâtres, puisque j'y étais moi aussi, j'ai fait partie de vos élèves.
Merci.
Les amphithéâtres, à chaque fois, étaient pleins à craquer, vous le rappelez bien dans le livre. Et vous aviez un certain, enfin très charismatique auprès de vos élèves. En effet, vous racontez aussi vos nombreux élèves qui venaient vous voir à la fin des cours pour vous faire dédicacer un ouvrage.
Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, alors soyons cyniques, après tout, nous sommes dans un Canal Académie. Le premier cours était, voilà, la bibliographie. Il y a ceux qui sont à gauche, Soboul. Il y a ceux qui sont à droite, Gaxot. Il y a ceux qui veulent être à la mode, Furet. Il y a ceux qui aiment les anecdotes, Castelot. Il y a ceux qui veulent être reçus, Tullard, et je montrais le livre. Les gens comprenaient parfaitement que c'était ça ou Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Mais Sainte Rita était moins sûre que l'achat du livre, qui n'était pas plus cher qu'un cierge. Donc, les auditeurs comprenaient parfaitement qu'à la fin de l'année universitaire, il serait de bon ton de faire signer le livre. Et alors, jouant parfaitement le jeu, je faisais épeler le nom de la personne à qui je dédicassais le livre et je lisais dans le regard du type, oui, parce que j'ai appelé son nom, il va bien s'en souvenir. Il va bien s'en souvenir sur l'examen. Et j'ai raconté cette histoire dans le livre, l'oral, d'une bot people, d'une malheureuse indochinoise qui avait fui et le communisme. Et je n'ai pas vraiment d'une connaissance admirable sur Napoléon. Elle avait des excuses, elle n'avait jamais entendu parler certainement avant. Et ça ne marchait pas très bien, mais enfin, on allait vers 7-8. Et voilà qu'elle cherche dans son sac et elle me sort le livre. Alors je me dis, pauvre fille, elle a fait l'effort d'acheter le livre, faut quand même. Alors je sors mon crayon pour le dédicacer, je l'ouvre et je vois Gibert Occasion. C'est-à-dire que ça ne rapportait rien comme livre et qu'elle l'avait acheté d'occasion.
Yves Brulé, vous qui avez été l'élève et l'assistant de M. Tullard, vous rappelez qu'il était vraiment très agréable de travailler avec lui. Et vous êtes toujours sur un ton un peu comique, monsieur Tullard, enfin pas comique, mais détaché. Et pourtant, il y a une méthode de travail extrêmement rigoureuse derrière, et ça, vous le montrez aussi très bien dans votre livre.
Oui, un exposé de Sorbonne doit être réglé, comme du papier à musique, avec... Il faut finir la partie qu'on aborde, il ne faut pas rester en panne. Et donc, tous les quarts d'heure, il faut qu'il y ait une plaisanterie qui détende, qui permet aux malheureux qui écrivent à toute vitesse. Parce qu'à l'époque encore, il n'avait pas de quoi enregistrer le cours. Donc, il prenait les notes. Et puis, il n'y avait plus les polycopiés. Donc, ils prennent les notes à toute vitesse. Donc, c'est fatigant. Donc, il faut savoir, tous les quarts d'heure ou toutes les 10 minutes, marquer une espèce de pause par « Ah, je vais vous en raconter une bien bonne », etc. Et en même temps, vous avez par ces plaisanteries le moyen de voir si le public est en accord avec vous. Exemple. Napoléon voulait envahir l'Angleterre. Mais c'était une sacrée paire de manches. Bon, vous voyez, si les étudiants continuent à écrire, c'est qu'ils sont complètement raplapla, qu'ils n'ont plus rien. Il faut savoir à ce moment-là. S'ils réagissent, ça va. C'est qu'ils sont toujours dans la course et qu'ils suivent le cours, véritablement, au lieu de le recopier bêtement.
Pour en revenir à votre métier d'historien et méthode, vous donnez une très très large place aux documents.
Oui. Oui, je suis de l'école positiviste, je l'ai dit, j'en ai du mérite parce que ce n'est plus du tout à la mode, l'anglois saigne bosse, plus personne n'en parle. Tout ce que vous avancez doit toujours reposer sur un document, une preuve. Vous ne dites rien en l'air, ou alors vous le présentez comme une hypothèse, mais sinon, il doit toujours y avoir une référence. De là, l'importance des notes de bas de page. Ce sont les justifications de ce que vous dites. Et en même temps, vous voyez que les historiens comme moi qui mettent des notes en bas de page ne tombent pas sous l'accusation de plagiat. Parce que même quand j'utilise un mémoire de maîtrise, je mets une note renvoyant à ce mémoire de maîtrise inédit, etc. Il est arrivé pour certains de mes collègues, que je ne nommerai pas, d'utiliser à fond les mémoires de maîtrise de leurs élèves. Certains de mes collègues donnaient des mémoires de maîtrise sur le même sujet, mais c'était à tel endroit, à tel autre, et puis ensuite, ils cousaient le tout, sans mettre, évidemment, de référence ou en remerciant vaguement les étudiants dans l'introduction, mais sans donner de nom. Il est arrivé que certains étudiants se contenter de recopier des livres antérieurs, de recopier des pages entières. Et le prof, s'il n'avait pas lu le livre, recopier la mémoire de maîtrise. Et au moins 3 ou 4 historiens, sinon plus, sont tombés ainsi sous l'accusation de plagiat. Parce que s'ils avaient mis la référence, ben, il n'y avait pas de problème.
Je vous propose de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.
1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Vous êtes toujours sur Canal Académie, nous sommes en compagnie de Jean Tullard et Yves Brûlé, venus nous présenter leur ouvrage « Détective de l'histoire » aux éditions Écriture. Nous avons parlé dans une première partie du métier d'historien, des sources entre autres, mais ce métier d'historien vous a amené vers beaucoup d'autres domaines. Vous parlez du cinéma bien sûr, mais on découvre aussi que vous êtes un gastronome, amateur d'opéra, la BD, le roman policier, et tout ça finalement au service de l'histoire.
Au service de l'histoire, parce que le plus beau métier du monde, c'est le métier de professeur d'université. Pour la raison fort simple, c'est mal payé, mais pour la raison fort simple, c'est que vous avez beaucoup de loisirs. Vous n'avez que 4 heures de cours. Et vous êtes dans une spécialité où vous n'avez pas, pour vos cours, à aller chercher à droite et à gauche. Vous avez toute la documentation chez vous. Par ailleurs, c'est un cours un peu fixe par rapport au Collège de France, où il faut changer chaque année, là, vous arrivez, finalement, si vous êtes en panne, à ressortir les mêmes plaisanteries. Si, comme professeur d'université, vous avez eu l'intelligence de recevoir tous vos élèves, ce sont d'autres qui prennent leur place dans l'amphithéâtre, et donc vous pouvez recommencer les mêmes plaisanteries, ce que vous ne pouvez pas faire dans des milieux fixes, comme l'École pratique des hautes études ou le Collège de France. Donc, il y a des loisirs, et il y a la possibilité, en posant le regard de l'historien, de toucher à d'autres domaines. Un domaine, par exemple, qui a été longtemps très négligé par l'histoire, c'est le cinéma. Il n'y a eu d'histoire du cinéma pendant longtemps que Bardèche et Brasillach, normalien, mais qui n'était pas historien en particulier. Il y a eu Georges Sadoul, mais Georges Sadoul était plutôt un journaliste communiste qui descendait en flammes les films hollywoodiens et exaltait le réalisme socialiste des films soviétiques. Bref, il y avait une place. J'ai été l'un des premiers à faire des dictionnaires du cinéma où je donnais des filmographies complètes. Il y avait bien entendu les cahiers du cinéma, mais les cahiers du cinéma dissertaient sur le sentiment religieux chez Hitchcock, etc. Personnellement, j'ai fait autre chose, j'ai donné, enfin pour Hitchcock ça ne posait pas de problème, mais pour d'autres réalisateurs, des filmographies complètes. Je faisais des recherches, il fallait chercher dans les revues, il fallait consulter les index américains. Mais dans les années 80, des gens comme Russ Humberston, Jésus Franco, au nom merveilleux, ou Bernard Deschamps par exemple, je prends des petits cinéastes, j'en donnais la filmographie complète. En les interviewant, quand je pouvais, mais en me méfiant d'eux, parce que, surtout pour les acteurs, les actrices vous racontent n'importe quoi. D'abord, d'emblée, la date de naissance est fausse. Bon, il faut le savoir. Alors, si vous la cherchez très loin, elles vous font des procès, donc mieux vaut mettre la date de naissance à laquelle elles tiennent. Et leur filmographie, beaucoup ne se souviennent plus. Il y en a qui ont tourné énormément, et il y a des films qu'elles souhaitent oublier, peut-être parce qu'elles étaient trop dénudées, par exemple, ou parce que le film était trop mauvais. Il y a des films qu'elles croient avoir tournés et qu'elles n'ont pas tournés. Je me souviens d'une actrice très, très connue qui me dit « Oui, vous n'avez pas mis dans votre filmographie le Testament d'Orphée de Cocteau. » Alors, la réédition, je rajoute le Testament d'Orphée de Cocteau et des spécialistes qui est mort, Belli de Cocteau, me dit « Mais pourquoi tu as mis cette actrice dans le Testament d'Orphée ? Elle n'a jamais joué. » Il y a un problème. Ça, c'est un très gros problème pour l'historien du cinéma, c'est qu'il ne peut pas toujours vérifier sur pièce. Une actrice vous dit « J'ai tourné dans tel film où j'ouvre une porte. » Bon, il faut retrouver le film. Aujourd'hui, le travail est beaucoup plus facile parce que énormément de films sont en DVD. Mais lorsque quelqu'un vous dit dans la notice du guide des films Billy the Kid de King Vidor, à la fin, Pat Garrett n'abat pas Billy the Kid comme dans l'histoire, et Billy the Kid s'enfuit, bon, il a dû se tromper, est-ce que c'est pas possible? Si vous demandez à la Cinémathèque une projection de Billy the Kid, vous attendrez un mois, il faudrait que vous avaliez 1h30 de film pour arriver jusqu'à la fin, alors que quand vous avez le DVD ou la vidéo cassette, à l'accélérer, ça vous demande 10 minutes. Donc c'était un travail assez difficile qui a eu des... Il y a des erreurs, parce que certains critiques ne sont pas privés, jaloux de relever des erreurs. Il y en avait parce que ça, on ne pouvait pas toujours tout vérifier.
En tant qu'historien, vous avez été aussi conseiller historique de film.
Oui, alors j'ai été conseiller historique de film, ça c'était à un moment donné une tradition. Robert Mondrou, Jacques Le Goff ont été aussi sollicités. Alors je l'ai été avec Abel Gance, on ne refuse pas de travailler avec Abel Gance, surtout auteur de Napoléon, mais c'était un véritable calvaire, car à l'époque j'étais candidat à la Sorbonne, et il prenait les plus grandes libertés avec l'histoire, c'était Valmy, c'était un téléfilm. Alors je lui disais, mais mon cher maître, ça ne s'est pas passé comme ça, vraiment ça ne va pas. Et, mon petit, l'histoire est faite pour être violée. Alors j'étais candidat à la Sorbonne, avec un viol sur la conscience, ça réduisait mes chances. Ensuite, alors je l'ai été pour un film en 1989, La Révolution française. Là, c'était un film en deux parties qui était quasiment le film officiel pour le bicentenaire, dont la première partie était tournée par Robert Enrico, et c'était Robert Enrico, c'était quelqu'un de très sérieux. Alors, quand on m'avait proposé ça, le producteur m'avait dit, voilà, je souhaiterais que c'est vous qui soyez conseiller historique, parce que nous savons que vous êtes rigoureux. Je ne tenais pas tellement à être conseiller historique de cette production, dont je devinais que ça allait peut-être tourner mal, mais je dois dire, et je le confesse, le producteur m'a donné un chèque, comme dans l'université, on en rencontre très peu. Un chèque presque de star, alors là, évidemment, tous mes scrupules ont fondu, et heureusement, avec Enrico, ça s'est très bien passé. Enrico était quelqu'un, il est mort, était un très bon réalisateur, et surtout d'une très grande rigueur. Et s'il y avait un petit problème, il m'appelait. Lui succède pour la deuxième partie. La première partie, c'était les années Lumière, et la deuxième partie, c'était les années Terreur. Et donc, c'est la rivalité, la deuxième partie, c'était la rivalité Danton-Robespierre. Et les producteurs avaient choisi Richard Efron, qui était un réalisateur américain, spécialiste surtout de série B, de thriller. Et je me dis, il va transformer la rivalité Danton-Robespierre en une rivalité entre Al Capone et Luciano. Je vois déjà la chose. Alors, je me dis, il faut que je fasse un effort, que j'aille voir quand même sur le plateau ce qui se passe. Et j'arrive en plein procès de Louis XVI, c'était le procès du roi, et je vois les conventionnels monter à la tribune pour prononcer la sentence, et au pied de la tribune, il y avait Louis XVI. Louis XVI n'y était pas, évidemment, ça aurait été d'une cruauté épouvantable de voir les gens le condamnant à mort publiquement comme ça, et lui en bas de la tribune. Alors je le fais remarquer, Richard T. Efron, cet Américain, qui avait la particularité de ne comprendre le français que quand on lui faisait des compliments. Et donc, sinon, il ne comprenait pas. Alors, je rassemble tout mon anglais pour lui expliquer ça, et il me répond qu'il avait réglé tellement les éclairages qu'il fallait recommencer pendant 3 jours les préparatifs, donc ça allait coûter une fortune. Je vous rappelle que j'avais un chèque en jeu, donc évidemment... Alors, il me dit, mais rassurez-vous, ça ne se verra pas au montage. Ça se voit dans le film. Mais ensuite, bon, monte à la tribune, on reprend le tournage, donc monte à la tribune, Sieyès. L'ex-abbé Sieyès, qui déclare « la mort sans phrase ». Alors j'arrête tout, la mort sans phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Et Richard T. Efron me prend à partie et me dit « vous êtes un mauvais historien, car moi là j'ai le document devant moi ». Il me sort le moniteur où il y avait écrit « Sieyès, la mort ». Entre parenthèses, sans phrase. C'est-à-dire que Sieyès était mort de peur, avait dit la mort, et méchamment, le graphe avait dit, il n'a même pas fait une phrase. Sans phrase. Alors, je dis, vous voyez bien que c'est entre parenthèses. Ah, me dit-il. Oui, mais alors, voyez le comédien qui est là, le comédien était à la tribune, il avait été coupé dans son effet. Mais le comédien, si vous coupez sans phrase, il n'a que cette réplique, ça réduit son cachet de moitié. Et alors, je ressens le regard désespéré du comédien, que faire dans ces cas-là? Le pauvre type avait à nourrir certainement une femme et 3 enfants. Donc, je dis, bon, bah, tant pis, passons. Et Dieu même, ça a été coupé, là, au montage. Ça a disparu, heureusement. Mais voyez, c'est le métier de... Alors, je l'étais aussi, mais moins nettement pour M. N. d'Antoine de Caunes. Enfin, c'est toujours extrêmement dangereux.
Monsieur N. d'Antoine de Caunes, d'ailleurs, c'est la fin m'y fait penser, qui a une fin très particulière, qui soulève un peu la polémique de savoir est-ce que Napoléon est aux Invalides et pas aux Invalides. Quelle est la position plutôt du détective de l'histoire face à ces grandes... à ces grands sujets polémiques.
Alors, ce sont des énigmes factices qui, vous le remarquerez, surgissent surtout l'été, quand les journalistes n'ont plus rien à dire. Et c'est un peu comme ça a remplacé... Napoléon a remplacé le monstre du Loch Ness, en quelque sorte. Donc, l'été, il y a l'empoisonnement de Napoléon. Napoléon, est-il évadé de Sainte-Hélène? Napoléon, est-il dans son tombeau? Etc. Alors, ça alimente une polémique. Je vous dirais que, personnellement, je considère ça comme pas très bon pour l'histoire napoléonienne, car déjà les critiques de la nouvelle histoire, les critiques de certains historiens marxistes ou autres, c'est que l'histoire de Napoléon est abordée de façon trop anecdotique. Alors là, on est en plein dans l'anecdote, donc ça ne sert pas le prestige des historiens de Napoléon que de disserter sur des problèmes mineurs. Et de surcroît, effectivement, on est forcé de dire « mais vous n'avez pas de documents ». Vous avez un exemple très frappant. Napoléon est-il ou non dans son tombeau des Invalides? L'idée a été développée par quelqu'un qui rapproche un premier témoignage, c'est-à-dire lorsqu'on met Napoléon dans son cercueil, il a les décorations d'un côté, une mèche de l'autre. Bref, il y a une description qui est donnée, et puis ensuite, il y a une autre description qui est donnée lorsqu'on ouvre la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène, où les décorations ne seraient plus du même côté, où il y aurait une botte qui aurait percé, etc. Il faut bien voir. Alors, l'historien que je suis qui demande d'utiliser le document ne peut pas dire véritablement il y a un témoignage d'un côté, il y en a un témoignage de l'autre. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on dit on utilise un document, il faut encore passer au crible ce document. Et il est évident que dans cette affaire, l'un des témoins, dans l'émotion, et surtout lorsqu'on a exhumé Napoléon de sa tombe Sainte-Hélène, il y a eu très peu de temps, les gens se fient à leurs souvenirs, à leurs impressions. Et donc, il se peut très bien que lorsqu'on l'a enterré, c'était déjà très émouvant, lorsqu'on le déterre, c'est déjà très émouvant, est-ce qu'il n'y a pas de photos? Si vous voulez, ce sont des témoignages oraux. J'ai écrit dans mon dictionnaire, dans le guide des films, un film qui est La révolte des fauves, cette œuvre aux couleurs chatoyantes. Et quelqu'un m'écrit et me dit « Mais nous l'avons vu ensemble à la Cinémathèque, il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. » J'en avais gardé le souvenir d'un film en couleur. Vous voyez, donc il faut aussi se méfier du témoignage et du document. Nous n'avons pas d'autres preuves que Napoléon. Il n'y a pas de document authentique qui permette de dire que Napoléon a été exhumé de sa tombe ou s'était évadé avant. Nous n'avons rien, nous n'avons aucune trace. Alors si, il y avait l'argument d'un acteur anglais que je ne nommerai pas, qui expliquait que sa grand-mère le menait à Westminster, visitait Westminster, et là, à un moment donné, elle s'est arrêtée sur une dalle et elle tapait du pied, elle disait « Toi, mon petit Napoléon, il est là !» Eh bien, j'ai toujours dit, nous n'avons qu'une seule certitude dans toute cette polémique, dans tout ce qu'on vient de dire et autres, une seule certitude, c'est que la grand-mère de cet acteur était gâteuse. C'est absurde. Napoléon dit « On enlèvera mon corps, on prendra mon corps, les Anglais le prendront. » Mais le prendront pour l'exhiber, pas pour le cacher. C'était un trophée de guerre. Mais si c'est pour le dissimuler et le remplacer par un autre, ça ne rime à rien.
Merci beaucoup Jean Tullard. Nous arrivons au terme de notre émission. Votre ouvrage, Détective de l'Histoire, se termine par quelques pages intitulées « De l'obsolescence des livres d'histoire ». Pouvez-vous nous en dire deux mots avant qu'on se quitte ?
Eh bien, vous savez, Valérie disait « Les civilisations sont mortelles, les livres d'histoire le sont aussi. Ils se périment, ils disparaissent parce que d'autres livres sont écrits. » Et on peut me critiquer de toutes les façons, il y a une chose, et vous en serez le témoin, puisque vous avez été mon élève, je n'ai jamais empêché quelqu'un de prendre les sujets que j'avais déjà abordés pour les refaire. L'histoire s'en refait constamment à partir de nouveaux documents avec de nouveaux regards. Et donc, il y a des livres de moi qui, aujourd'hui, sont dépassés. Ça ne signifie pas que je ne les aime pas. Je les vois vieillir, comme on voit vieillir ses enfants, puis on voit des petits-enfants qui apparaissent. Les petits-enfants, ce sont les livres de mes élèves.
Merci beaucoup, Monsieur Tullard. Au revoir à tous et à toutes.